France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Alain Vaillant. Moi, c'est Christelle et je suis avant tout une grande amoureuse de la poésie baudelairienne. Je l'ai d'abord aimée pour sa noirceur, pour son spleen, pour sa dimension mélancolique. Et finalement, à force de lire, j'y ai trouvé un comique, un surgissement de l'ironie qui m'a fait sourire, voire parfois rire.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
On s'est mis en tête au Book Club de rire en lisant, ou en tout cas de vous proposer une série d'émissions où l'on interroge la place de l'humour, du trait d'esprit, du caustique dans de grandes œuvres littéraires. Aujourd'hui, avec celui que l'on rattache le plus souvent au spleen ou à la mélancolie, Charles Baudelaire. Né en 1821, élève brillant, figure parisienne de la bohème dorée, auteur du recueil à la fois scandaleux et majeur des Fleurs du Mal publié en 1857, cœur tourmenté, cœur mis à nu. Notre invité Alain Vaillant le présente comme un poète de la maturation et du patient ressassement. C'est à la dimension vocale, prémisse de son rapport au comique, qu'on va s'intéresser d'abord, puisque Baudelaire disait ses textes dans un milieu où la satire faisait bon train. Ironie, obscénité ou pitrerie, mais le tout tendu vers un idéal artistique profond. On verra combien tout cela fonde sa grande poésie. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Alain Vaillant.
Bonjour.
Vous êtes historien de la littérature, professeur émérite à l'Université de Nanterre. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, et notamment autour de la question qui nous préoccupe aujourd'hui. On est donc vraiment ravis de vous avoir à cette table. Baudelaire, poète comique, paru en 2007. L'esthétique du rire, ça c'était un ouvrage collectif que vous aviez dirigé en 2012. Je cite aussi La civilisation du rire, paru en 2016. Et je ne suis pas exhaustive, on mettra la totalité de la bibliographie en lien sur la page internet de l'émission. Bienvenue dans le Book Club, merci d'être avec nous. Ici, on commence toujours par faire connaissance avec nos invités en tant qu'ils sont des lecteurs. Donc évidemment, vous en êtes un grand lecteur, même un spécialiste, un lecteur spécialiste. Mais néanmoins, vous avez forcément eu une rencontre biographique avec l'œuvre de Baudelaire. Est-ce que vous vous souvenez quand vous rencontrez les poèmes de Baudelaire, à quel moment de votre parcours et qu'est-ce que ça vous fait ?
Oui, vu mon grand âge, j'appartiens à une génération, on apprenait à lire très jeune. Donc j'ai lu les poèmes de Baudelaire à 13-14 ans. Et pour moi, c'est effectivement les poèmes mélancoliques dont vous avez parlé. Mais alors cela dit, ce que disait Christelle il y a un instant, c'est...
Notre auditrice, oui,
exactement ce que j'ai éprouvé. C'est alors cette fois-ci, quand j'étais un jeune chercheur et jeune agrégé, l'évidence de l'ironie et du comique dans ces poèmes me semblait tellement forte que j'étais absolument étonné, à vrai dire scandalisé, par la lecture extrêmement sérieuse, ennuyeuse que l'on faisait dans l'enseignement. Et je pense que vraiment Baudelaire a été une victime de l'enseignement scolaire. Le problème, c'est que voir du comique chez Baudelaire, ça ne suffit pas. Je veux dire, pourquoi ? Quel est l'intérêt de ce rire ? Et en fait, donc, j'ai un peu abandonné Baudelaire sur cette perplexité. Bon, Baudelaire est un provocateur et un plaisantin. Et il m'a fallu des dizaines d'années pour comprendre le sens profond de son rire. Et donc, c'est seulement lorsque j'ai compris le sens de cette ironie, qui est un sens artistique, et pas simplement, c'est pas du comique seulement, que j'en ai fait une partie de mon travail et que donc j'ai publié ce livre sur Baudelaire, poète comique.
Alors, on va évidemment aujourd'hui ne faire qu'effleurer la profondeur de ce que vous avez développé dans vos différentes recherches. Mais en tout cas, ce que j'entends, c'est que dans un premier temps, vous-même, vous adhérez à cette idée du mélancolique et du spleen de Baudelaire. Pourquoi est-ce que c'est une idée si répandue, si évidente quand on dit Baudelaire, c'est forcément Paris, gris, cœur fendu. Pourquoi est-ce que c'est si tenace ?
Mais c'est très simple. C'est que dès lors qu'on a décidé de faire de Baudelaire un poète scolaire, on ne pouvait pas expliquer à des élèves, à des lycéens, toutes les horreurs, les obscénités qu'il y a dans ces poèmes. Alors je ne sais pas ce que fait comme professeur Christelle, l'auditrice, mais moi quand j'ai commencé comme professeur de lycée, et je n'enseignais pas Baudelaire dans mes classes de lycée, parce que
pour cette raison-là. Ah ouais.
Oui, parce que soit on n'étudie pas les textes, soit on censure l'explication. Et donc je les expliquais en tant qu'avec des étudiants, mais j'estimais que je ne pouvais pas dire clairement ce qu'il y avait dans les textes, donc je préférais ne pas en parler. Et on peut dire ça de beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs dont on a enlevé le rire parce qu'on estimait que c'était pas convenable pour des élèves. Et donc, dans la critique anglaise, les Anglais ont une approche beaucoup plus comique de Baudelaire parce que c'est pour les grandes personnes, si je puis dire.
Donc, elles vous ont aidé justement ces critiques étrangères et notamment les critiques britanniques quand vous dites c'est au moment où j'ai compris la profondeur et les enjeux purement artistiques ou profondément artistiques du comique chez Baudelaire que je me suis mis et plus avant lancé dans les recherches. Alain Vaillant, ce détour vers les recherches britanniques, ça a été décisif?
Non, à vrai dire, j'étais heureux de voir que j'étais pas le seul.
Mais vous avez été conforté, quoi.
Voilà, j'avais déjà fait le cheminement lorsque j'ai découvert que c'était beaucoup plus évident de l'autre côté de la Manche. Mais c'est quelque chose de très général, hein. On peut le dire aussi pour Balzac et pour tous les auteurs. Le fait qu'il n'y ait pas de solution de continuité entre l'enseignement scolaire et la lecture pour grandes personnes fait qu'on a en grande partie enlevé à ces auteurs qui étaient vraiment des auteurs très drôles, très ironistes, très pervers dans leur manière d'écrire, ce qui fait non seulement le sel de leur écriture, mais le sens profond de leur écriture.
Ouais, c'est étonnant, finalement, c'est vraiment une raison de contexte d'enseignement, de contexte de réception qui vient modifier la totalité de la lecture du neuf, ce qui est presque vertigineux. Mais on va essayer de rétablir ça un tout petit peu aujourd'hui. J'en profite, puisque vous l'avez cité, pour dire que le premier épisode de cette série, que j'espère joyeuse et longue, on l'avait consacré justement à Balzac, et on peut la réécouter sur le book club franceculture.fr. Alors peut-être dire un mot du milieu dans lequel il évolue, et de peut-être ce que ce milieu-là peut préfigurer dans un rapport au comique, notamment dans la dimension publique des lectures. J'ai été très intéressée par le lien que vous faites entre le caractère vocal, la diction et le rapport au comique. On va commencer par un témoignage, c'est Jules Levallois, homme de lettres, qui raconte ça. Quand il avait composé une nouvelle pièce de vers, il parle donc de Baudelaire, il nous réunissait en petit cénacle dans quelques crèmeries de la rue Saint-André-des-Arts ou dans quelques modestes cafés de la rue Dauphine. Le poète commençait par commander un punch, puis, quand il nous voyait disposés à la bienveillance par suite de ce régal extra, il nous récitait, d'une voix précieuse, douce, flûtée, onctueuse et cependant mordante, une énormité quelconque, le vin de l'assassin ou la charogne. Le contraste était réellement saisissant entre la violence des images et la placidité affectée, l'accentuation suave et pointue du débit. Pourquoi est-ce que ce témoignage-là et d'autres qui nous font exister comme ça la figure de Charles Baudelaire en train de dire ses poèmes dans une assemblée, dans une sorte presque de malaise, pourquoi ça nous renseigne pour commencer à parler du comique dans l'œuvre de Baudelaire?
Parce que ce témoignage dit trois choses fondamentales. D'abord, Baudelaire appartient effectivement au milieu de la bohème, comme on dit, c'est-à-dire des poètes, jeunes écrivains qui travaillent pour la petite presse, c'est-à-dire pour la presse satirique de l'époque. Il y a des centaines et des centaines de titres à cette époque. C'est une époque où l'on rit, où il y a une évidence de la fantaisie, de l'ironie, de la satire, de la blague. Et donc Baudelaire n'est pas le seul. Tous ces grands écrivains, on peut dire la même chose de Balzac, de Flaubert, écrivent sur fond d'un rire partagé par tout le monde. Donc ça, c'est absolument capital.
Par tout le monde ou par cette bohème-là?
Par tout le monde. Enfin, okay. Il y a cette idée, cette caricature, le bourgeois est sérieux et empesé, et cette bohème est...
Pas rit. Du tout.
Tout le monde rit, alors pas des mêmes choses. Mais d'abord, si ces petits journaux existent, c'est qu'ils sont achetés et lus. Donc l'idée du bourgeois sérieux et stupide par rapport à l'artiste qui est drôle, ça c'est un cliché construit par Balzac et par Baudelaire justement.
En réalité, si les journaux sont achetés et s'ils sont lus, ça veut bien dire ça rigole aussi dans la bourgeoisie.
Oui, il y a une, c'est une période, alors c'est une image que je prends souvent, nous sommes après la révolution de 1830, qui vient après la restauration, qui est un régime réactionnaire, triste, très catholique d'ailleurs, et 1830, c'est un petit peu le mai 68 du 19e siècle. D'ailleurs, on a souvent comparé Giscard à Louis-Philippe, et plus récemment, le président actuel. Donc, c'est une période où on s'éloigne de ce régime autoritaire qui était la Ve République avant 68, et donc, tout le monde rit. Tout le monde rit, après 68, c'est Charlie Hebdo, c'est Coluche, c'est Desproges, et après 1830, tout le monde rit, il y a une sorte de rire de provocation, et qui est un rire aussi d'irrespect, et un rire d'anticléricalisme, ce qui est fondamental.
Donc c'est un rire critique, fondamentalement critique à la base.
Oui, c'est un rire critique, parce que en France, depuis d'ailleurs le XVIIIe siècle, on a l'habitude de ne pas oser critiquer le pouvoir, puisque sous l'Ancien Régime, c'est une monarchie absolue. Avant, c'était la monarchie, après, ce sera le Second Empire pour les fleurs du mal. Et donc, rire est une manière de contester. Mmh. Et notamment de contester le sérieux de la religion, j'y insiste. Donc, le bourgeois qui est catholique ne rit pas, mais la bourgeoisie, grosso modo, partage ce qu'on appelle l'esprit de Voltaire, qui est un esprit de critique. Et donc, il y a une sorte de rire qui traverse toute la société, toute la sociale, sociales confondues à cette époque, et particulièrement la jeunesse estudiantine. Et Baudelaire appartient à cette jeunesse, mais il est une sorte de star dans cette jeunesse, effectivement.
Pourquoi c'est une star dans cette jeunesse ? Parce qu'il est particulièrement doué, donc je redis, hein, 1821, c'est sa date de naissance. Donc en effet, c'est un jeune homme dans l'époque que vous décrivez.
Oh, il y a différentes raisons. Une des raisons, c'est que il est orphelin de père, et donc il a hérité en 1841, à 21 ans.
Il a un peu plus d'argent que les autres.
Et donc il achète des œuvres d'art, il n'a pas besoin de gagner sa vie comme les autres.
Tout de suite en tout cas. Non.
Non, il a toujours
même
eu.
Quand on lui coupera,
Oui, il a toujours une pension. En gros, les deux tiers de ses revenus étaient assurés par la pension, mais comme il dépensait beaucoup avec des œuvres d'art, avec la prostitution et des tas de choses. Non, Baudelaire. Et vous avez parlé de jeunesse dorée. C'est très important dans la bohème dorée. Et par rapport aux bohémiens qui étaient obligés de gagner leur vie pour vraiment placer leurs articles dans les journaux, il avait une liberté d'action et d'écriture qui est tout à fait autre que les autres. Il publiait dans les journaux ce qu'il voulait publier. Mmh. Il n'a jamais publié parce qu'il était obligé de publier pour gagner sa vie. Et donc, c'est un élément fondamental dans sa destinée particulière. Il n'y a pas d'écrivain au XIXe siècle, de grand écrivain qui était un grand écrivain pauvre. Lorsqu'on est pauvre, il faut gagner sa vie. Il faut être indépendant du marché de l'édition et de la presse pour pouvoir construire l'œuvre que l'on veut. Et donc, Baudelaire, pour cette raison, est une sorte d'exception dans ce milieu de la bohème.
Est-ce qu'il faut y voir aussi une sorte de figure d'insolence ? Quand vous dites tout ça, Alain Vaillant, on voit aussi quelqu'un qui a le luxe presque de son insolence.
Oui, alors c'est l'autre point. Ce qui est la marque de fabrique de Baudelaire, c'est le provocateur, c'est la provocation permanente, et ses petits camarades de la bohème s'amusent. Alors il y a des tas de légendes ou bien d'anecdotes sur ce que faisait Baudelaire, qui provoquait le bourgeois sur le boulevard, qui allait dans les cafés, qui faisait des blagues, qui faisait ce qu'on appellerait des canulars. La question est que beaucoup ne prenaient Baudelaire que pour un provocateur. Et ce qui est tout à fait la question qui se posait pour moi lorsque j'ai vu les provocations, c'est pourquoi cette provocation-là était, encore une fois, le ferment nécessaire de l'œuvre qu'il veut créer. Parce qu'il n'allait pas croire que je prends Baudelaire pour un petit plaisantin.
D'autant plus que je disais bien en introduction que non seulement vous n'en faites pas qu'un petit plaisantin, mais surtout, vous ajoutez l'ingrédient du temps. Et vous dites, c'est un poème de la maturation, dans une comparaison qu'on n'aura probablement pas le temps de développer ici avec Flaubert, mais il y a la question du temps, c'est-à-dire que ce n'est pas que la jeunesse qui, dans l'immédiateté et son insolence, va faire des blagues à l'ordre établi. Ça vient comme maturer, ça devient une sorte de sous-sol d'une poésie qui va mettre qui va devenir solide par aussi la maturation.
Oui, il y a un degré de profondeur dans le rapport à la poésie, une densité de son écriture qui se nourrit alors de cette ironie. Et aussi de ce qui est la clé, pour revenir à la question du rire, c'est que ce qui excite beaucoup Baudelaire, c'est que le rire est toujours caché dans l'œuvre. C'est-à-dire que lorsque vous lisez les poèmes de Baudelaire, c'est pas drôle lorsqu'on les lit. Il faut trouver la clé des textes, et il y a une sorte de jouissance, c'est-à-dire perverse, à cacher dans les textes ce que il a à dire. Hein. C'est dans l'adresse au lecteur des Fleurs du Mal, le dernier vers, c'est « Hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère ». Mais si l'on dit ça, c'est que si le lecteur est le frère de Baudelaire, c'est qu'il est aussi hypocrite que Baudelaire. Et donc, si Baudelaire dit « mon semblable, mon frère », il n'en pense pas un mot. C'est ça la clé de ce vers. Et donc, toute l'ironie baudelairienne est dans l'annulation de la fraternité.
D'avec son lectorat.
Voilà, par cette hypocrisie qui pourtant est considérée comme la raison même de cette fraternité. Donc, une sorte de contradiction. C'est la même chose que le paradoxe du menteur dans ce premier vers. Et tous ceux qui citent ce vers en ne retenant que la fraternité ne comprennent pas justement ce renversement final qui, évidemment, suscitait dans Baudelaire une jouissance profonde.
On a évoqué, donc, en citant ce texte de Jules Levallois, cette espèce d'assemblée où il y a une bizarrerie entre le ton de Baudelaire, sa vocalisation et le fond des poèmes. Là aussi, Alain Vaillant, vous en faites cette dimension vocale, un fondement de ce rapport au comique dans l'œuvre.
Cela fait partie de cette manière d'envelopper le sens du texte. Et donc, on fait semblant...
Éventuellement de le cacher aussi.
De le cacher, voilà. On dit quelque chose de façon parfaitement froide, apparemment indifférente. Et en fait, à l'intérieur, on dit une horreur. Ça serait beaucoup moins drôle si il disait ouvertement une horreur. Alors, c'est quelque chose qui pouvait évidemment être admiré par ses camarades et qui pouvait paraître insupportable à d'autres. Il y a un texte célèbre qui est un éreintement de Baudelaire par Jules Vallès une semaine après la mort de Baudelaire, et qui est un texte d'insulte de Baudelaire, qui traite Baudelaire, hein, j'ai les mots sous les yeux, de force à lugubre de l'excentricité, et disant que Baudelaire n'aurait pas 10 ans d'immortalité, c'était quelqu'un qui ne savait pas faire de poésie et qui était, dont la vie était obsédée par l'idée de d'étonner le bourgeois. Évidemment, Vallès s'est trompé pour ce qui.
Un petit peu, c'est ce que j'allais dire.
Oui, il s'est trompé.
Pour la postérité, en tout cas.
Il s'est trompé pour la postérité, mais il a bien vu, en revanche, hein, cette sorte, ce désir de choquer, de provoquer, d'être un personnage étonnant. Sauf que lui ne voit pas, parce que lui est républicain, il est anticlérical, et il trouve qu'il y a trop de bondieuserie chez Baudelaire, c'est un autre problème. Et puis c'est un trop grand bourgeois pour lui, hein. Vallès est un républicain, un vrai républicain. Mais. Donc il n'a pas vu à quel point il faisait une œuvre avec cela.
À quel point c'était profond, et c'est là-dessus qu'on va essayer de fonder cette émission aussi, Alain Vaillant. On dit lire Baudelaire, ce n'est pas évident, que c'est drôle, en tout cas pas immédiat. En même temps, vous écrivez combien c'est le seul des poètes de cette époque-là à écrire un texte et à le consacrer au rire. On est en 1855. Qu'est-ce que c'est que de l'essence du rire? Est-ce que ça nous renseigne? Est-ce que c'est insuffisant de lire ce texte-là pour comprendre la dimension justement profonde du comique dans l'œuvre de Baudelaire?
C'est pas seulement le seul à cette époque, hein, c'est le seul écrivain français qui ait consacré un essai total à la question du rire, à l'essence du rire, et qui fait vraiment du rire la clé de l'art. De la poésie et de l'art.
Donc, oui, il dit même que s'il n'y a pas rire, ce serait comme quelque chose qui manquerait au sage, en fait. Que s'il y a intelligence, il y a rire nécessairement.
Alors, il dit différentes choses. Si j'essaie de résumer sa doctrine, alors qui est complexe, mais je vais essayer. Alors, on cite toujours ce qu'il dit, à savoir que le rire est diabolique, du côté du diable. Alors, ça, c'est une banalité absolue. Hein, c'est hérité de la vieille théologie du Moyen-Âge. Donc je laisse ça de côté. Il dit aussi.
Mais il le dit quand même.
Oui, il le dit.
Parce qu'on y reviendra justement quand même à cet imaginaire du Moyen Âge. Mais bon, il dit ça, voilà.
Oui, c'est un.
Enfin, c'est le truc le moins intéressant pour vous.
C'est le commun, voilà. Il dit ensuite que le rire et la marque est un rire de supériorité. C'est que l'homme veut se croire supérieur. Mm. C'est aussi une autre banalité qu'on trouve dans la philosophie classique depuis le XVIIe siècle. C'est ce que Hobbes dit, Descartes aussi, etc.
Il n'y a pas d'intelligence sublime ou superbe sans sens dans l'humour.
Alors ce qu'il dit. En revanche, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit le rieur veut se montrer supérieur aux autres hommes, c'est la satire, je me moque de l'autre. Il dit c'est un rire qui n'est pas intéressant, il appelle ça le comique ordinaire ou le comique significatif. C'est le comique de Molière, c'est le comique de Voltaire qu'il déteste. Pourquoi ? Parce que d'une part, c'est simplement un rire d'imitation, on fait simplement qu'imiter la réalité. Ensuite, on l'imite en l'enlaidissant. Et enfin, on veut faire rire pour donner une leçon de morale, et comme dit Baudelaire, il faut choisir. Soit on est sérieux, soit on veut rire. Mais si on veut ajouter du sérieux au rire, eh bien le rire est contaminé par le sérieux en quelque sorte. En revanche, il y a la deuxième solution, qui est celle qui intéresse Baudelaire, c'est lorsque l'homme qui rit veut se montrer supérieur à la nature elle-même, au réel lui-même. Et là, le rire atteint ce qu'il appelle le comique absolu, ou le grotesque, ou le surnaturalisme. Et là, on est près du surréalisme. C'est inventer des choses extraordinaires en subvertissant le réel et en faisant un vrai travail d'imagination et d'invention. Et c'est ce qu'il appelle le comique absolu. Et le comique absolu dont il dit que c'est l'apanage de tous les artistes supérieurs. Et donc, pour lui, ce rire d'invention, d'imagination, est la clé de l'art. Et je dirais que toute notre modernité est issue de cette conception qui met un lien profond entre l'art et cette sorte de liberté de la pensée que permet l'imagination du rire. Parce que l'imagination est en quelque sorte en apesanteur, et il peut imaginer des tas de choses. Et donc la poésie de Baudelaire consiste à utiliser cette énergie créatrice fantastique du rire pour créer un univers imaginaire. Et nous sommes ici, évidemment, aux antipodes du rire voltairien, du rire de la satire, qui est un rire, pour lui, un rire tout à fait banal et ordinaire.
Et c'est totalement inexistant, ce comique ordinaire ou banal ou de la satire, parce qu'on a quand même on a commencé par le présenter comme ça, dans le début de notre conversation, Charles Baudelaire, Alain Vaillant. Alors, dans sa poésie, est-ce qu'il en demeure du comique satirique, juste se moquer au détour d'une phrase? Est-ce qu'il en reste un peu?
Là, vous avez parfaitement raison. Là, il est de mauvaise foi, effectivement. Parce que chez
Baudelaire, comme si c'était totalement inexistant ensuite dans sa poésie.
Oui, mais c'est pour ça qu'il le cache, justement. La satire est invisible, et elle est invisible, elle est cachée derrière le fantastique. Et vous avez parfaitement raison. En réalité, Baudelaire ne pratique aussi le comique significatif, mais il l'enveloppe dans tellement d'images fantastiques qu'on ne le voit pas, ou pour le voir, eh bien, il faut faire ce parcours artistique que fait Baudelaire dans son œuvre. Et en quelque sorte, il sublime le comique significatif par le comique absolu de l'imagination.
Comment s'est reçu ce texte en 1855 ?
Alors d'abord, il faut dire que ce texte sur de l'essence du rire, d'abord ça apparaît dans une petite revue. Mm-hmm. Vous savez, Baudelaire n'est pas encore Baudelaire, nous on sait qu'il est Baudelaire, mais lui c'est un poète, un écrivain.
Qu'est-ce qui fait Baudelaire, 1857 et les fleurs du mal ?
Alors 1857 a joué un rôle fondamental, effectivement. Je pense que Baudelaire n'aurait pas sa place dans l'histoire littéraire française s'il n'avait pas été condamné en 1857, de même que probablement Flaubert ne serait pas à sa place. Alors lui, il y a eu un procès, mais il a été relaxé, s'il n'a pas eu ce procès. Donc la condamnation de 57 a été absolument miraculeuse pour lui, et d'emblée lui a donné effectivement une importance historique, enfin que peut-être il n'aurait pas eu.
Donc en 55, c'est confidentiel.
C'est confidentiel, et d'autre part, en réalité, ce traité de l'essence du rire est un traité sur la caricature. Parce qu'il faut bien voir qu'à cette époque, l'équivalent de ce qu'est le stand-up pour nous maintenant, ou je ne sais pas, moi le cinéma il y a quelques générations, c'était la caricature. Il y a un déploiement de la caricature dans la presse de cette époque qui vient d'entrer dans la presse pour des raisons essentiellement technologiques, la mise au point de la lithographie et de la gravure sur bois debout, mais je vous laisse de côté les questions techniques. Mais donc, on vit d'abord le rire sous la forme d'images. Et il y a plein de caricatures dans la poésie de Baudelaire, la plupart des poèmes, on le verra avec un des poèmes, je crois.
Surgissement d'images, justement, oui.
Oui, c'est-à-dire que Baudelaire imagine une caricature et la décrit en réalité. Il a des images en tête, on a des images dans la tête. Et les deux lieux principaux pour la culture du rire à cette époque, c'est le théâtre et la caricature. C'est-à-dire la presse et le théâtre.
Alors, mais donc c'est novateur qu'il le place en poésie, le rire ?
Ah oui, absolument, oui, justement, ça, la singularité de la poésie de Baudelaire, c'est d'abord, alors non seulement une poésie qui fait rire, parce qu'il existait une poésie satirique, mais c'est une poésie de l'image, qui fait voir. Le poète, avant Baudelaire, c'est celui qui fait des grands discours, des grands poèmes, il dit ce qu'il pense, il raconte ses sentiments, son amour, son malheur, etc. Baudelaire ne raconte rien. Il le fait éprouver à son lecteur. Et ça, c'est la grande révolution poétique que tous les poètes après lui vont reprendre. C'est-à-dire que la poésie n'est plus une poésie du dire, mais une poésie du voir et de l'image. Mmh. L'imagination, la reine des facultés, comme il le dit dans ses notes.
Et ce qui est, à mon sens, presque le plus intéressant, presque bouleversant dans ce que vous dites, c'est qu'il y a un lien profond, presque une superposition entre le rire et l'imaginaire, la puissance de l'imaginaire. Vous avez tout à l'heure utilisé l'énergie comme sorte de ressource du côté de l'imaginaire comme du côté du rire. On va rentrer méthodiquement dans l'analyse de trois poèmes qu'on a choisis ensemble, juste après ça.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et un book club consacré à la place du comique dans l'œuvre de Charles Baudelaire, dans le cadre d'une série d'émissions que nous consacrons au rire et à la lecture. On le disait tout à l'heure, Alain Vaillant, notre premier épisode était consacré à l'œuvre de Balzac. Aujourd'hui, Charles Baudelaire. Le deuxième temps de l'émission qu'on a vraiment imaginé comme une sorte de commentaire de trois poèmes que vous avez choisis avec Léa Weiss-Grus et qui vont être lus en direct par Jeanne-Louis Calix. L'idée, c'est vraiment qu'à partir de ces trois poèmes, on puisse nous aussi faire une sorte de géographie des différents comiques dans l'œuvre de Charles Baudelaire. On commence par Perte d'auréole. C'est un poème qui publie de façon posthume en 1869 et qui fait partie du recueil Spleen de Paris.
Hey, quoi ? Vous ici, mon cher ? Vous dans un mauvais lieu ? Vous le buveur de quintessence ? Vous le mangeur d'ambroisie ? En vérité, il y a là de quoi me surprendre. Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l'heure, comme je traversais le boulevard en grande hâte et que je sautillais dans la boue à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage de la ramasser. J'ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os. Et puis, me suis-je dit, à quelque chose malheur est bon. Je puis maintenant me promener incognito, faire des actions basses et me livrer à la crapule comme les simples mortels. Et me voici tout semblable à vous, comme vous voyez. Vous devriez au moins faire afficher cette auréole ou la faire réclamer par le commissaire. Ma foi, non. Je me trouve bien ici. Vous seul, vous m'avez reconnu. D'ailleurs, la dignité m'ennuie. Ensuite, je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s'en coiffera impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance! Et surtout, un heureux qui me fera rire. Pensez à X ou à Z, hein? Comme ce sera drôle!
C'est marrant parce que quand on a commencé à décrire les origines finalement de son lien au comique, à Charles Baudelaire, et qu'on a parlé de la satire, du lien avec la presse, presque de l'inscription, de la naissance de sa profonde poésie dans ce milieu-là, on a assez peu parlé d'une autodérision et d'une possibilité de se moquer de lui-même. Or, c'est ce qui se passe dans ce poème-là, au moins Alain Vaillant.
Ah, ça je ne suis pas sûr. D'abord, c'est pas pour vous reprendre, mais il n'a pas été publié à titre posthume. Le Spleen de Paris a été publié à titre posthume.
Mais pas Perte d'auréole.
Mais le poème a été publié peu de temps après la condamnation de 1857, et c'est pourquoi je voulais le préciser. Et en plus, parce qu'il y a toujours cette déformation des littéraires de penser que la date de publication, c'est la publication en volume.
Mais
si c'est publié dans un journal, c'est publié. Non, parce que souvent, les érudits parlent de pré-publication dans la presse. C'est une publication dans la presse, c'est une publication, voilà. Pourquoi je précise cela ? C'est que ce poème-là est publié peu de temps après la condamnation de 57. Et en fait, de quoi s'agit-il ? Donc vous avez le poète, comme il dit, mangeur d'ambroisie, buveur de quintessence, un poète, ça fait des vers, ça fait des belles choses, etc. Et voilà que son auréole est tombée dans le ruisseau. Pourquoi ? Parce qu'il a été condamné. Il est dans la fange. Il est condamné parce qu'il parle de prostitution, etc. Parce qu'il y a essentiellement des obscénités dans les fleurs du mal. C'est pourquoi, d'ailleurs, je ne voulais pas les expliquer avec mes élèves mineurs. Et lui, il est très content, mais finalement, non, c'est très bien. Moi, je suis très bien dans la fange. Et donc, je vais continuer à être poète en étant un poète scandaleux. Et ceux qui ont voulu m'humilier en me faisant tomber mon auréole, eh bien, ils en sont pour leurs frais. Que un petit poète naïf qui croit que la poésie ne peut pas...
Peut s'en coiffer après moi, ouais.
S'en coiffe. Il pense au futur poète parnassien. Il n'existe pas encore, l'appellation n'existe pas. Mais donc là, au contraire, on est dans la moquerie et même le pied de nez à la justice. Je suis très content d'avoir perdu mon auréole de poète.
Et finalement, quand vous parliez tout à l'heure d'une énergie visuelle de la poésie de Charles Baudelaire, là, on a tout ce que vous décriviez. C'est-à-dire qu'il y a la fange, en effet, il y a l'auréole, elle est presque concrète, elle est presque matérielle, elle est tombée, l'auréole du poète, elle est au sol et on peut la voir d'une certaine manière à Alain Vaillant.
Oui, et le comique est explicite. D'ailleurs, c'est l'avantage du Spleen de Paris qui est un peu, c'est l'expression que j'emploie souvent, les fleurs du mal pour les nuls. C'est-à-dire qu'il a été condamné en 57 et lui, il a le sentiment d'avoir fait un chef-d'œuvre et au fond, il va passer les dernières années de sa vie alors qu'il est malade, il est mourant. C'est assez pathétique sa vie hein, parce que lui ne sait pas qu'il est Baudelaire. Il meurt de sa syphilis dans des conditions physiques terribles. Et donc, il veut absolument construire, si je puis dire, sa statue de poète. Et chacune quasiment des pièces du Spleen de Paris est une explicitation de ce que le lecteur des Fleurs du Mal n'aurait pas compris. Et notamment, donc, cette perte d'auréole qui est, encore une fois, la conséquence, la réaction à sa condamnation de 57, en tout cas, c'est comme ça que moi je comprends ce poème, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de, traduction, il n'y a pas de notes, mais j'ai la faiblesse de croire que j'ai raison.
Et donc, à aucun moment là, il ne rit lui-même d'avoir porté l'auréole, à aucun moment il n'a d'humour sur lui-même, parce que c'était une des dimensions qu'on n'avait pas évoquées jusqu'à maintenant.
Alors là, si, il y a d'autres poèmes. Là, justement, je crois que c'est une des grandes différences entre Les Fleurs du Mal et Le Spleen de Paris, c'est qu'il y a pas mal d'autodérision dans Le Spleen de Paris, parce qu'au fond, est-ce que c'était si important ce qu'il a fait ? Enfin, il y a une sorte de tristesse, d'autodérision dans d'autres poèmes du Spleen de Paris, alors que les Fleurs du Mal sont toujours mordantes, hein, c'est toujours celui qui attaque, qui se moque. Il y a une sorte, mais c'est parce qu'il y a une sorte de désespoir, un petit peu, enfin de renoncement dans Spleen de Paris. Et il y a des moments qui sont assez touchants dans cette autodérision, mais pas là, pas dans celui-là, je pense.
Et alors, si on essaye de définir les différents comiques que vous mettez à jour, Alain Vaillant, dans l'œuvre de Charles Baudelaire, ici, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme terme technique pour le comique dont il s'agit, avec la perte d'auréole ?
Là, pour le coup, c'est de l'ironie. C'est ce jeu sur l'image de l'auréole, mais c'est l'explicitation de l'ironie baudelairienne. Pour qualifier son rire, moi, il y a eu deux réflexions qu'on trouve dans ces journaux intimes qui me paraissent absolument fondamentales. L'une, je cite, « deux qualités littéraires fondamentales, surnaturalisme et ironie. Coup d'œil individuel, aspect dans lequel se tiennent les choses devant l'écrivain, puis tournure d'esprit satanique. Le surnaturel comprend la couleur générale et l'accent, c'est-à-dire intensité, sonorité, limpidité, vibrativité, profondeur et retentissement dans l'espace et dans le temps. Il y a des moments de l'existence où le temps et l'étendue sont plus profonds et le sentiment de l'existence immensément augmenté. » La poésie de Baudelaire, c'est cette sorte extraordinaire développement de l'imagination par le sentiment d'intensité hyperesthésique, enfin sensorielle, que l'on trouve dans sa poésie. Mais bon, ça suffit pas. Il faut resserrer ça dans un texte, et c'est l'ironie qui permet de tenir tous les fils et d'en faire un poème.
Par la vitesse aussi, par la dynamique de l'ironie.
Et par la concentration d'ironie que permet la versification. C'est-à-dire que le rire de Baudelaire est intrinsèquement lié à son usage du vers, de ce vers si tenu, si impassible apparemment. Il y a une autre réflexion de Baudelaire, toujours dans ses carnets, de la vaporisation et de la centralisation du moi, tout est là. La vaporisation, c'est l'imagination qui va dans tous les sens, c'est le surréalisme baudelairien.
Mais concentration.
Et la concentration, c'est le vers, c'est pourquoi il n'est pas surréaliste. Ces deux mouvements-là, et c'est pourquoi, bon, à vrai dire, là je vous l'avoue, j'ai beaucoup moins de passion pour le Spleen de Paris, qui me paraît simplement, encore une fois, l'explicitation de ce qu'il fait. Baudelaire a écrit Les Fleurs du Mal, son chef-d'œuvre, ce sont les Fleurs du Mal, et c'est bien parce qu'on est une époque où on ne sait plus aimer la versification telle qu'elle est, qu'on accorde une telle importance au Spleen de Paris. À mon avis, si le Spleen de Paris n'était pas signé de Baudelaire, ce sont des textes amusants. Mais dans la presse de l'époque, vous avez d'autres poèmes qui sont aussi drôles et qui sont avec des effets d'ironie, des effets de sous-entendu, etc. La particularité de Baudelaire, ce n'est pas d'être drôle, c'est d'avoir transformé le rire en art. C'est tout à fait autre chose. Et il y a une autre citation que je trouve fondamentale, qui est une citation de son frère en poésie, en littérature, plutôt qu'il n'est pas un poète, mais un prosateur, c'est Flaubert. Et Flaubert qui écrit quelque part que l'essentiel pour lui, c'est l'acceptation ironique de l'existence, sa refonte plastique et complète par l'art. Et c'est exactement ce que fait Baudelaire. D'ailleurs, Flaubert est né...
Là, il cite Flaubert. Enfin, c'est Flaubert.
Non, c'est Flaubert qui dit ça, mais Flaubert, il est né en 1821 comme Baudelaire. Il publie son grand texte en 1857 comme Baudelaire. Ce sont vraiment... Ils font la même chose parce qu'ils sont les enfants de la même époque. Il s'agit donc de jeter un regard ironique et désespéré sur la réalité, mais de le refondre en œuvre d'art. Et le mystère de Baudelaire, c'est de transformer le rire en œuvre d'art. Donc c'est ça qui est absolument capital. Et le problème pour nous et pour moi, c'est que on a une lecture tellement sérieuse de Baudelaire qu'il faut d'abord déconstruire le sérieux pour arriver au comique. Mais le comique, c'est la matière première
de
l'art. Baudelaire.
Oui, de l'art et de sa dimension absolue, voilà, quoi, de son horizon absolu. Deuxième texte que nous avons choisi, c'est un texte qui s'appelle « Une charogne, la charogne ?»
Une charogne.
Une charogne. On l'écoute dans la voix de Jeanne-Louis Calix.
Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux. Au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait, d'une façon nonchalante et cynique, son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point et de rendre au centuple, à la grande nature, tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe, comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient et n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir sur la toile oubliée, et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers, une chienne inquiète, nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection, étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces après les derniers sacrements. Quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
Bonjour le Book Club. Le premier surgissement du rire en lisant Baudelaire pour moi, c'était dans Une charogne. Je trouve que dans ce poème, il cherche tellement à accentuer la décomposition du cadavre dans des termes assez peu ragoûtants que je me suis surprise à l'imaginer en train de chercher ce qui allait le plus dégoûter le lecteur en face. Et je l'imaginais s'amuser de ça. Et c'est ça qui m'a fait rire.
C'est la voix de Christelle qu'on retrouve, auditrice du Book Club, qui vous adresse quand même cette remarque, cette question à propos du poème Une charogne. Donc là, on y est, dans Les Fleurs du Mal, 1857, Alain Vaillant. Elle s'amuse de la jubilation, de la description du squelette, de la viande, des vers. Et elle se dit que peut-être, c'était l'intention de Baudelaire, qui s'amusait lui-même à augmenter de plus en plus notre dégoût. Est-ce que c'est une bonne piste pour commencer d'analyser ce poème ?
Oui,
qui vient d'être lu par Jean-Louis Calixte.
Oui, oui, c'est absolument l'intention de Baudelaire de choquer. Et c'était un poème très, très connu pour ça. Hein. Vous aviez cité le témoignage de Jules Valois. Voici le témoignage d'un autre camarade de Bohème, une petite notice publicitaire, si je puis dire, parue dans un petit journal. « Sale midi de cadavre à la Baudelaire, découvrez un cadavre faisandé et déjà en décomposition, en autant de parties que vous pourrez, bourré de vers bien faits et d'originalité, saupoudré de paradoxes, paré de fleurs du mal et servez raide. » Échauffons. Voilà, c'est une recette de cuisine. Voilà, donc caricature de recette de cuisine. Alors effectivement, c'est un poème absolument immonde.
Très visuel, hein, pour continuer de parler du rapport à l'imaginaire très visuel de Baudelaire.
Et vous verrez jusqu'à quel point. Alors à la fin, hein, alors ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés, c'est un calembour. C'est-à-dire que moi, je fais des vers, tandis que les vers vous dérobent, vous dévorent, excusez-moi. Donc, il y a un jeu de mots, vraiment, qui est assez, d'ailleurs, il n'est pas le premier à l'avoir inventé, il existait déjà au XVIe siècle, mais en fait, ça dit cela. L'amour, pour vous, votre corps sera en décomposition, l'amour pour moi, c'est la poésie que je fais. Parce que le sens de ce poème, alors il faut le comprendre, c'est donc Baudelaire qui se promène dans la campagne avec sa dulcinée. Et qu'est-ce qu'il rencontre ? Un cheval en décomposition. C'est probablement un cheval parce qu'il y avait énormément de chevaux à cette époque. En plus, les jambes en l'air, les chevaux ont des jambes. C'est donc on sait que c'est un cheval. Et il va comparer en réalité la décomposition du cadavre, ce grouillement malodorant de chair en décomposition. Si vous avez déjà vu une charogne en décomposition, c'est absolument immonde. Les odeurs sont absolument immondes. Avec les vers qui dégoulinent, en réalité, un acte sexuel.
Absolument. Et même donc, au sexe, en le réécoutant là, je me disais, ça peut être un gros plan sur un sexe féminin après l'orgasme. Voir la description d'un orgasme avec les vagues, le corps agité de vagues, les liquides. Enfin, il y a vraiment quelque chose de quasiment presque pornographique. Puisqu'en plus, il y a aussi la chienne qui regarde. Donc tout à l'heure, quand on parlait du caractère visuel, il y a aussi quelque chose de quasi voyeuriste.
Ah, est-ce que le mot de chienne peut avoir de connotation sexuelle ? Oui, non, exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Et cette vision qu'il a de la sexualité comme une sorte de liquide gluant comme ça qui sort, enfin c'est absolument immonde. Alors il faut comprendre pour aller vite que il pratique ce que j'appelle l'inversion du comparant et du comparé. C'est-à-dire qu'en fait, il ne compare pas un cadavre en décomposition à un acte sexuel, mais il compare l'acte sexuel un acte de mort, parce que c'est une sorte d'obsession de Baudelaire, bon c'est la sienne, hein, c'est que l'amour est impossible, et parce que l'amour suppose une sorte de synthèse entre le corps et l'esprit, entre l'âme et le corps, et non c'est pas possible. Et
donc il dit, c'est mortifère.
C'est mortifère, ouais. Voilà. Et c'est l'erreur des femmes de croire qu'elles donnent leur âme alors qu'elles ne donnent que leur corps, et dit-il, les femmes n'ont pas d'âme, enfin je laisse de côté ces propos misogynes qui n'ont aucun intérêt. Mais du point de vue artistique, il faut comprendre ça, c'est-à-dire que l'amour ne peut que aboutir à la décomposition. La seule manière de préserver la beauté de l'amour, c'est d'en faire un poème. Mmh.
Oui, bon. Enfin, d'en faire un poème et mes vers, ma beauté, ma mie, te rongeront. C'est-à-dire que si on va jusqu'au bout du calembour, Alain Vaillant, les vers qui grouillent sur la charogne et les vers qui crient Baudelaire, les vers dévorent la charogne. Donc finalement, ce ne sont pas que des vers qui seront amoureux, ça peut être aussi des vers mortifères.
Oui, mais c'est pas ces vers à lui, justement. Lui ne sait que l'amour est impossible, donc lui fait des vers et n'est pas contaminé par cette mort, et il laisse la femme se décomposer dans sa corporéité. Oui, non, c'est immonde comme texte. Alors, pour revenir aussi à ce que je disais tout à l'heure, vous avez là, dans ce poème, la démonstration de la poétique de Baudelaire. Le surnaturalisme, c'est la transformation...
De la vision, quoi.
De la vision, qui est absolument monstrueuse. Et l'ironie, c'est ressaisi à la fin, et ça devient simplement une poésie, ces poèmes impassibles, d'où l'importance de cette poétique du vers, cette impassibilité de la versification, qui permet de faire de la vision monstrueuse quelque chose de poétique.
Quand vous dites à la fin, c'est-à-dire « Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés », c'est voilà. Ça qui reprend.
Voilà, exactement. Il reste la poésie, cette poésie marmoréenne, impassible, tenue par la versification, et la lecture a très bien fait les dires quand il le fallait pour qu'on perçoive bien les syllabes. Et c'est vraiment une sorte de démonstration presque mathématique ou scolaire de sa poétique dans ce poème Une charogne.
Mais alors, où est-ce qu'on rigole ? Parce que quand même, notre projet aujourd'hui, c'est de se dire rire avec Baudelaire. De quel comique il s'agit avec Une charogne, Alain Vaillant ?
Mais là, c'est vraiment, alors on peut aimer ou pas, c'est un comique de la provocation. C'est parce que
ça va tellement loin. C'est tellement, on s'approche tellement du dégoût avec cette charogne qu'on rit de dégoût.
Oui, on rit
de surprise, on rit de gêne.
C'est pas seulement ça. Il faut comprendre justement qu'il n'y a pas que de la provocation. Il y a ce sens profond, c'est-à-dire ce renoncement à l'amour et qui devient quelque chose d'émouvant. Je voudrais juste lire quelques vers d'un poème qui est une sorte de commentaire poétique d'une charogne qui fait partie des 6 poèmes qui ont été condamnés par la justice, donc qui sont retirés du recueil.
Donc 1857, c'est la fameuse condamnation.
Voilà, et qui s'appelle « Les métamorphoses du vampire ». Alors c'est le portrait d'une femme qui est une sorte de bombe sexuelle, la femme cependant de sa bouche de fraise, en se tordant ainsi qu'un serpent sur la braise, en pétrissant ses seins sur le fer de son busque, laisser couler ses mots tout imprégnés de musc. Moi j'ai la lèvre humide et je sais la science de perdre au fond d'un lit l'antique conscience. Bref, tout, c'est vraiment une scène d'un érotisme absolument torride. à la fin, ouais. Quand Thalidomézo suçait toute la moelle, je dis moelle à cause de la rime, alors on peut se demander, enfin, l'image est aussi assez obscène, et que languissamment je me tournais vers elle pour lui rendre un baiser d'amour, je ne vis plus qu'une outre au flanc gluant toute pleine de pu. Je fermais les deux yeux dans ma froide épouvante, et quand je les rouvris à la clarté vivante, à mes côtés, au lieu du mannequin puissant qui semblait avoir fait provision de sang, tremblaient confusément des débris de squelettes qui d'eux-mêmes rendaient le cri d'une girouette ou d'une enseigne au bout d'une tringle de fer que balance le vent pendant les nuits d'hiver. Or, c'est exactement, c'est l'explicitation d'une charogne qui n'a plus que, donc, son ventre rempli de ce que vous imaginez est une outre pleine de pus. Mm. Ce qui, effectivement, Baudelaire étant syphilitique, on imagine effectivement que tout ça n'est pas très, très sain.
Vraiment du côté de l'enfer, Alain Vaillant. C'est-à-dire qu'on commence par, vous dites, une scène érotique torride. Enfin, c'est plus que mortifère.
Oui, ça, c'est horrible. Et l'image de la tringle à la fin, qui, bon, ça aussi. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est que le basculement dans ce poème, c'est le vers pour lui rendre un baiser d'amour.
D'amour. C'est et pas, c'est là que vous le trouvez touchant, vous.
C'est parce qu'il lui met de l'amour. C'est parce qu'il lui met de l'amour que ça dégénère.
Je veux dire, c'est terrible.
C'est l'explicitation d'une charogne. Et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, les seules femmes honorables, ce sont les prostituées, que les prostituées, professionnellement, sont indifférentes. Et donc, elles ne pourrissent pas, en quelque sorte.
Et donc, puisqu'il n'y a pas d'amour avec les prostituées, il n'y a pas la mortification. Exactement. Et le devenir macabre, et le devenir charogne, et le devenir vampire qu'il décrit dans les autres poèmes.
Exactement.
C'est donc terrible.
C'est terrible.
Mais ça, c'est encore une autre conversation.
Oui, ça, j'aime Baudelaire pour son rire, ça ne veut pas dire comment ça, c'est sa pathologie personnelle, je trouve ça absolument glauque. J'ajoute simplement que par rapport à tant de poètes romantiques qui ont fait des grands poèmes sur l'amour et qui sont comportés comme des sales bons hommes, vraiment, je pense à Musset en particulier, Baudelaire dit des horreurs sur les femmes, mais il a été beaucoup plus féministe que les grands poètes romantiques.
À Alain Vaillant.
Pour ce que l'on sait, pour ce que l'on sait en tout cas.
Troisième poème, parce qu'il faut qu'on termine quand même. On est toujours dans les fleurs du mal et cette fois-ci, on écoute toujours dans la voix de Jeanne-Louis Calix, Spleen.
Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, et que de l'horizon embrassant tout le cercle, il nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Quand la terre est changée en un cachot humide, où l'espérance, comme une chauve-souris, s'en va, battant les murs de son aile timide et se cognant la tête à des plafonds pourris. Quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imite les barreaux, et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux. Des cloches tout à coup sautent avec furie et lancent vers le ciel un affreux hurlement, ainsi que des esprits errants et sans patrie qui se mettent à geindre opiniâtrement. Et de longs corbillards, sans tambour ni musique, défilent lentement dans mon âme l'espoir vaincu, pleure, et l'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné plante son drapeau noir.
C'est le troisième poème que nous avons choisi dans cette émission consacrée à l'œuvre de Charles Baudelaire et aux dimensions plurielles et profondes du comique dans cette œuvre-là. Le poème s'appelle Spleen, on est toujours dans le recueil des Fleurs du Mal, dont vous rappeliez à Léa Weiss-Grus en préparant l'émission qu'il comptait à l'origine 100 poèmes et que ce nombre n'était pas anodin. Pourquoi c'est intéressant de le rappeler avant que de commenter ce dernier poème, Alain Vaillant ?
Oui, parce que 100 poèmes en l'édition, dans l'édition de 1857 et 126 dans l'édition, la deuxième édition de 1861. Alors 100 poèmes, probablement parce que c'est une référence à Dante, à la Divine Comédie, qui avait trois parties de 33 chants, plus introduction, ça fait 100. Mais alors ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il est condamné, on lui retire 6 poèmes. Et il en rajoute de telle sorte que il en rajoute.
On est à 94, il en rajoute 32.
Et dans le recueil définitif, il y a 126 poèmes. pour compléter le recueil. Mais si vous ajoutez les 6 condamnés, on arrive à 132 poèmes. Mmh. Et si vous divisez par 2, vous arrivez à 66, qui est le chiffre du diable. Et il dit ailleurs 66.
Et nous qui avons depuis le début parlé de Satan comme étant l'un des fondements du livre de Charles Baudelaire, mais là on extrapole ou on a raison de faire ces petites divisions?
On a parfaitement raison, il adore cacher des choses, alors je crois que je n'ai pas le temps de vous expliquer d'autres choses dans ces textes. Mais si, je vais quand même le faire.
C'est fascinant, je vous avoue que si on en arrive à diviser le nombre de poèmes pour atterrir sur 66 chiffres cachés du diable dans les fleurs du mal, j'ai presque envie que vous continuiez, Alain Vaillant.
Mais c'est presque ça, le rire de Baudelaire, c'est le plaisir d'enfouir les choses dans les
plaisir
textes.
Plaisir enfantin, c'est le mot qu'on n'a pas prononcé jusqu'à maintenant,
oui.
Mais vous faites le lien aussi avec une sorte de rapport, pour revenir réutiliser le mot de la vision de l'enfant, c'est qu'il y aurait quelque chose dans le comique de Baudelaire qui se rattacherait à ça.
Oui, ça, le point ultime, c'est la joie de l'enfance. Et il y a cette formule célèbre du peintre de la vie moderne, le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Et ce qui est tout à fait émouvant, c'est que ce Baudelaire, aussi méphitique, aussi obscène, etc., avait une sorte d'idéal qui est celle presque du Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est-à-dire cette exultation joyeuse de l'enfant.
Et dans l'essence du rire, d'ailleurs, il dit que l'horizon, c'est la joie. Il y a quelque
chose de cette
idée-là.
C'est le point ultime du comique absolu, c'est la joie. Mm-hmm. Arriver à la joie. Alors, je voulais dire un mot du poème Les Phares, qui est un poème de Baudelaire, ça sera en une seconde, qui est un poème où, à chaque strophe, il nomme un des grands génies de l'art, Rubens, Léonard de Vinci, Rembrandt, Michel-Ange, etc. Et en un quatrain, il décrit en quoi consiste ce génie. Mm-hmm. Il y a une seule strophe qui ne fonctionne pas comme ça, c'est la cinquième strophe, je la lis. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui suis ramassé la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, homme débile et jaune, Puget, mélancolique empereur des forçats.
Il parle de qui ?
De Puget, donc qui est un sculpteur, mais en réalité, Puget qui est moins connu quand même que Rubens, Léonard de Vinci. Mais en revanche, lorsque vous relisez le premier hémistiche, colère de boxeur, et que vous le dites à l'envers, vous avez Xeur, Baudelaire Co. C'est-à-dire qu'il s'est mis dans sa strophe à l'envers. Et donc le plaisir de Baudelaire de cacher ça dans ce poème que tout le monde commente, etc., sans voir le jeu qui se trouve au cœur de ce poème.
En attendant, on n'a pas dit grand-chose de Spleen pour l'instant, et le temps court. Qu'est-ce qu'il faut dire de ce dernier poème, peut-être pour un dernier aspect du comique,
oui.
Alain Vaillant ?
Alors, il n'y a pas d'obscénité, donc on montrera que le rire n'est pas simplement lié à l'obscénité. Quand le ciel... Alors, la question qui se pose, après la lecture, c'est que viennent faire dans un poème un couvercle, une chauve-souris, des araignées, et comment, comme on l'a vu dans l'avant-dernière strophe, des cloches peuvent sauter avec furie. En principe, des cloches ne sautent pas avec furie.
Sauf avec tout ce que vous avez dit de la tension quasi-surréaliste de la poésie de Baudelaire.
Mais c'est un sens très précis. Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, c'est un couvercle de quoi ? C'est un couvercle de cercueil. Et donc, vous avez un esprit gémissant enfermé dans un cercueil. Qui est-ce qui gémit dans un cercueil ? C'est un vampire. En réalité, ce poème est une sorte de reprise d'un motif qui est un motif déjà banal depuis le vampire attribué à Byron au début du siècle. Et donc, c'est ce vampire qui souffre dans son cercueil. Baudelaire est un mort-vivant. Je continue. Quand la terre est changée en un cachot humide où l'espérance comme une chauve-souris. On voit effectivement le vampire, c'est la chauve-souris, sauf que le vampire, la chauve-souris, c'est l'espérance, qui est une vertu théologale en principe. C'est la religion, c'est du côté de Dieu et non pas du diable. Et là, on retrouve une autre des thèses fondamentales de Baudelaire, pourquoi l'homme est malheureux à cause de la religion, de Dieu. Parce que si on a mis dans la tête de l'homme l'idée qu'il y a un bonheur absolu qu'il va trouver dans l'au-delà un jour, eh bien, on est triste sur Terre.
Donc en fait, erreur d'aimer, erreur de désirer, erreur d'espérer.
Exactement. Et c'est pourquoi l'espérance est devenue une chauve-souris. Et c'est la faute de la religion. C'est la religion qui est diabolique. Et c'est pourquoi on a ensuite, dans la strophe suivante, quand la pluie étalant ses immenses traînées d'une vaste prison imitant les barreaux et qu'un peuple muet d'infâmes araignées vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, parce que dans la caricature de l'époque, les deux animaux qui servent à caricaturer les hommes d'église, c'est soit les corbeaux à cause de la soutane et du petit manteau, soit l'araignée à cause de cette idée de la toile d'araignée du clergé. Et donc, en réalité, ces araignées qui tissent leur toile dans la tête du pauvre Baudelaire, c'est la religion, c'est l'Église. Et donc on comprend pourquoi les cloches sautent avec furie. Parce que les loups qui hurlent à la nuit, c'est les cloches de l'Église. Et donc ça inverse totalement l'image qu'on peut avoir du vampire avec les cloches de l'Église qui essaient de repousser la présence diabolique du vampire. Et donc tout ce poème qui paraît un poème simplement du spleen, le vrai sens de la succession d'images que l'on voit, c'est cette souffrance de l'homme à qui on a donné en quelque sorte, qu'on a contaminé en quelque sorte par l'idée de Dieu, et ça se termine sur l'espoir vaincu pleure, donc on retrouve l'espérance. Et l'angoisse atroce despotique sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. On sait bien que lorsqu'il faut tuer un vampire, on plante un pieu dans le cœur. Là, on ne plante pas le crâne, mais dans le crâne, ce qui donne très mal à la tête.
Et ce qui boucle la boucle, Alain Vaillant, avec ce qu'on disait, c'est-à-dire quand même la naissance quasi technique de cette caricature, donc de ce comique en lien avec la presse, c'est que là, on a presque l'impression, en vous écoutant, de voir la gravure. C'est qu'on pourrait presque publier ce poème-là en le retraduisant en image, tellement c'est resserré, tellement c'est presque une sorte de gravure. Dans un poème. Encore une fois, le rire, il est lequel, celui-là ? C'est un rire de stupeur ? C'est parce qu'on a peur qu'on rit ? Ce dernier comique, c'est lequel ?
Ce qui est extraordinaire, alors d'abord, c'est effectivement, rappelez-vous que De l'essence du rire est un traité sur la caricature. C'est que le rire, c'est le rire qui donne à l'image son intensité artistique et qui permet d'exprimer aussi l'intensité de la souffrance de Baudelaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre le rire et la profondeur lyrique du poème. Et je voudrais terminer à ce propos avec une dernière citation de Flaubert, qui un commentaire de ce que vous dites. « Le comique arrivé à l'extrême, le comique qui ne fait pas rire, le lyrisme dans la blague, et pour moi, tout ce qui me fait le plus envie comme écrivain. » Et voilà ce qu'est le rire de Baudelaire, le comique arrivé à l'extrême, le comique qui ne fait pas rire. Non pas parce que...
Mais alors comment on le reconnaît ?
Il
ne fait pas rire, mais il est dans notre cœur.
On le reconnaît quand on a ce comique dans le cœur. Et moi, j'étais le fait que Baudelaire avait 10 ans à la Révolution de 1830. Moi, j'avais 10 ans en 1968. Et donc, je partage ça. Mais il faut comprendre que c'est un rire qui crée de l'émotion. C'est pas un rire de blague. C'est quelque chose qui saisit le cœur, qui saisit l'imagination. Et c'est absolument, ça donne le frisson, ce rire de Baudelaire.
C'est quand même un rire limite, le dernier. Dernier rire avec lequel nous terminons à Alain Vaillant, parce que c'est comme si on était presque descendu, et c'est étonnant qu'on ait évoqué au passage Dante et les cercles et l'enfer, parce que on arrive dans un dernier rire là avec Spleen, comme vous dites, on sourit même pas. C'est quoi, quelque chose qui bouge au dedans de la poitrine, quoi, ce sourire qui ne fait pas rire. Mais qui tient à quoi du chant comique? Parce que pourquoi est-ce qu'on le rattache encore au comique alors ?
Mais parce que le comique est une émotion très profonde. Enfin là, vous avez cité mon livre sur la situation du rire. Là, je vous expliquerai en quoi le rire est profondément émouvant. Enfin, l'émotion du rire est quelque chose. C'est pas pour rien que le rire est utilisé dans la séduction, dans l'amour justement. C'est une des émotions les plus profondes qui touche au cœur de l'homme. Je reprends les mots de Flaubert. Le comique arrivé à l'extrême, le comique qui ne fait pas rire.
Qui ne fait pas rire.
Mais on ne rit pas parce qu'il est tellement à l'extrême qu'on ne rit plus. C'est un rire au-delà du comique, et c'est pourquoi d'ailleurs, pour Baudelaire, le summum du comique, c'était la joie de l'enfant, et l'enfant ne rit plus, il est heureux. C'est-à-dire que ce qui permet d'arriver, ce qui permet de dépasser le rire, c'est une émotion de la joie. Chez Baudelaire, c'est une joie très triste.
C'est hyper beau, merci beaucoup Alain Vaillant. On termine avec une petite notion d'agenda dans le cadre de son séminaire de recherche Baudelaire est des nôtres 2025-2026. Le groupe Baudelaire propose au printemps une série de conférences consacrées aux formes d'échanges intellectuels et esthétiques chez le poète. On mettra toutes les références sur la page du Book Club franceculture.fr, ainsi que les quelques titres de vos livres que nous avons cités. Alain Vaillant, merci infiniment d'avoir été avec nous pour cet épisode de Rire avec Baudelaire, et merci à vous, Jeanne-Louis Calixte, d'avoir lu les poèmes en direct au son. C'était Ludovic Auger, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, et en particulier aujourd'hui à Léa Weiss-Creus.